ici, on est réunis aujourd'hui pour une conférence sur les vampires. Donc, entrée, froid et séduction, multiples visages du vampire. Donc, nous avons à notre table Morgane Cossarieux, Nina Blason, sa traductrice Nelly Lemaire, Monsieur Éric Wiesel et Monsieur Jean-Marie. Alors, je vais commencer par Nina Blason. Parce que son roman « Femme et vampire » paru en 2010 en France chez Seuil Jeunesse est celui des auteurs présents qui se rapproche le plus de l'origine littéraire du mythe. Je parle de Bram Stoker, Dracula de Bram Stoker. Alors, Nina, vous partagez avec le Dracula de Bram Stoker la situation géographique du roman, donc l'Europe de l'Est, et l'importance des...
Un peu moins rapide.
Donc vous partagez avec le Dracula de Stoker la situation géographique du roman, l'Europe de l'Est, et l'importance des légendes et superstitions qui s'y attachent. Ce retour aux sources vous tenez à cœur?
Ja, es lag mir am Herzen, diesen Urmythos des Vampirs zu zeigen. Ich bin in der Nähe dieser Gegend geboren worden, aus der dieser Mythos stammt. Also meine Familie hat Wurzeln in Slowenien, Kroatien und Serbien. Und Bram Stoker hat sich an Vampirberichten orientiert aus dem 18. Jahrhundert, die aus dieser Region stammen, also der Dracula. Ist ja eine literarische Gestalt von Bram Stoker erfunden, aber die Wurzeln liegen in diesem serbischen Urvampir. Und das wollte ich zeigen.
Oui, bien sûr, cela me tenait à cœur. Oui, bien sûr, cela me tenait à cœur de remonter donc au mythe original du vampire. D'autant plus que je suis originaire de cette région, ma famille a des racines de cette région, en Slovénie, etc. Bram Stoker s'est donc tenu à ses racines. Et donc,
votre roman partage aussi un autre point de l'importance avec Dracula, donc de Bram Stoker. C'est l'investigation scientifique sur le phénomène du vampirisme. Donc chez vous, c'est la figure du personnage autrichien. Et chez Stoker, l'épisode avec le déséquilibre mental dans la clinique.
Un officier autrichien.
Vous pouvez nous parler de vos recherches sur le vampirisme dit historique?
Also ich bin ja in der Lage, dass ich die Märchen und Sagen in Originalsprache lesen kann. Und ich habe mich in Verbindung gesetzt mit verschiedenen Spezialisten zum Thema Vampirismus an Universitäten, also in Serbien direkt, aber auch in Österreich. Und es gab diese Untersuchung, diese Vampirjagd im Jahr 1731, wo österreichische Offiziere, Militär, in ein Dorf kamen, wo Vampirismus, wo die Leute sagten, es herrscht Vampirismus, es sind viele Leute gestorben. Und diese Untersuchung habe ich mir natürlich sehr genau angeschaut, aber ist auch in Bezug gesetzt zu den Mythen in dieser Region. Denn dadurch, dass es eine Militärgrenze war zwischen dem Osmanischen Reich und dem Österreichischen, damals Serbien gehörte ja zu Österreich, konnten in dieser Grenzregion, haben sich Mythen sehr lange gehalten, weil das eine Enklave war, die sehr abgeschlossen war. Und da hineinzugehen und diesen Mythos direkt zu erfahren, auch vor Ort, ich war auch in dem Gebiet, wo diese Begebenheit sich abgespielt hat, das bringe ich alles in das Buch ein.
Oui, bon, pour faire ces recherches historiques, le travail a été facilité dans la mesure où je connais les langues de ces contes et de ces légendes, donc dans ma langue originale. Trouver les relations avec les vampires en 1731, quand les officiers sont venus dans la région pour combattre le vampirisme qui sévissait dans ce village. Le lieu se situe à la frontière militaire entre l'Empire ottoman et l'Empire autrichien. À l'époque, la Serbie faisait partie de l'Empire autrichien. Et je me suis trouvée aussi dans ces lieux géographiques pour faire mes recherches.
Donc on reparlera bien sûr de votre roman tout à l'heure, donc je vais continuer le tour de table. Alors, Éric Wiesel, donc vous êtes auteur de fantasy et de thriller et membre du collectif d'artistes La Ligue de l'Imaginaire. Donc l'ouvrage qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est La Porte des Limbes, qui est paru en 1997 et que Mnemos a réédité en début d'année. Alors, votre texte parle de vampires psychiques, mais vous allez nous en parler, bien sûr. Donc je vais vous demander de nous en parler, mais le mythe du buveur de sang, avec toutes ces caractéristiques qu'on a associées, vous, dans ce texte, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas avec le contexte géographique.
Non, alors justement, il faut que j'explique un petit peu l'origine de ce roman. Mm-hmm. À l'époque, Mnemos était aussi sous le nom de Multisim, est un éditeur de jeux de rôle. Et à l'époque, ils étaient à la recherche d'auteurs pour publier des romans autour de leurs univers de jeux de rôle. Et donc, ils m'ont proposé de travailler sur un univers particulier, sur un jeu particulier qui est Néphilim. Et parmi les Néphilim, il y a ces personnages très liés à l'ésotérisme, qui remontent à la nuit des temps, doués de pouvoirs psychiques. Il y avait parmi ces créatures une sous-catégorie qu'on appelle les Sélénim. Voilà. Et donc je me suis emparé de cette branche-là, qui est un petit peu particulière dans cet univers, et qui effectivement, les Sélénim sont des créatures qui se repaissent, qui se nourrissent des émotions de leurs victimes, qui entretiennent un lien très particulier, donc ne sont pas des buveurs de sang. Ils entretiennent un lien très particulier qui est finalement celui de manière générale, sans doute, enfin, pareil, mieux que moi, des vampires, d'un mélange de séduction et de prédation, comme des parasites finalement, sont ni plus ni moins que des parasites, donc ils n'éliminent pas, proprement parler, leurs victimes, mais ils entretiennent dans un rapport de dépendance affective pour se nourrir de leurs émotions. Donc du coup, c'était pas l'idée, ça se rapprochait des vampires effectivement, mais l'idée était plutôt de coller à cet univers Sélénim qui avait été mis en place par un autre auteur, par un créateur de jeux de rôle, un univers très complet avec beaucoup de symboles et d'ésotérisme très fort. Alors, par contre, pour ce qui est de l'époque elle-même, parce que la Porte des Limbes se passe à la fin du 19e siècle, pour le coup, dans le jeu de rôle, ce n'était pas du tout précisé. On peut adapter l'univers à n'importe quelle époque, et là, par contre, c'est une démarche personnelle de placer ces personnages-là dans un Paris de la fin du 19e siècle, un Paris décadent, entre guillemets, avec des peintres, des mages, enfin des personnes qui étaient entre le charlatanisme, qui étaient un petit peu des gourous, des intellectuels, des artistes, et qui voyaient un monde en train de changer, un monde qui leur échappait finalement, qui était en train de s'industrialiser, où la technologie était en train de prendre le pas sur certaines formes de, sinon de magie, mais de spiritualité, et c'était finalement une sorte de conservatisme, de réaction, en tout cas du point de vue de la démarche, mais qui a produit un champ artistique vraiment, vraiment passionnant, en tout cas quand on s'intéresse à tout ce qui est imaginaire, fantasy, fantastique, c'est une période qui était très riche. Donc du coup, je me suis amusé à faire le lien entre ces créatures qui se nourrissent des émotions de leurs victimes et une époque qui prêtait la foi à toute, à la magie noire, à tout ce qui pouvait finalement ressortir de ce qu'on appelle le gothique aujourd'hui.
C'est c'est vrai qu'on a, on a l'impression que vos, vos personnages sont, sont vraiment des victimes volontaires, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont, sont très crédules, ils ont envie de merveilleux, de, voilà, de sensations, de séances de spiritisme, l'espace des choses. Et du coup, effectivement, le vampire n'est entre guillemets qu'une créature surnaturelle parmi d'autres, mais il y a vraiment tout un. C'est vraiment très entraînant ce, dans, dans votre roman, tout cet ensemble, quoi. Où vraiment, le vampire est une perle, entre guillemets, noire parmi, parmi d'autres, quoi.
Du coup, elle, c'est les nymphes, donc comme on les appelle, ces vampires psychiques, finalement sont un fantasme réalisé pour eux. Ils leur permettent enfin de, d'atteindre tous les champs un petit peu noirs, tous les domaines un petit peu inquiétants qui les passionnent, et d'un seul coup, ces créatures-là leur permettent de les vivre un peu plus intensément. Bon, alors, c'est pas sans danger, parce que il y a d'autres créatures que les vampires dans la Pandella, mais qui sont encore plus dangereuses, qui elles ne sont pas forcément intéressées par le parasitisme, mais vraiment pour aller détruire l'humanité, la remplacer. On a une menace qui vient bien plus loin.
Et leur dernière question avant de passer à M. Marigny. Votre texte sort en 2013, donc une nouvelle édition revue et corrigée. Alors pouvez-vous nous dire un petit peu quel point vous avez retravaillé par rapport au texte de 1997?
Alors justement, comme c'était très lié à un univers de jeux de rôle, donc la première édition était quand même sans doute plus destinée à des gens qui connaissaient. Donc il a fallu prendre en compte pour une réédition le fait que de nouveaux lecteurs ne connaîtraient pas forcément ces univers-là. Donc développer certaines scènes, les préciser. Donc le travail était surtout là-dessus. On n'a évidemment pas changé la structure du texte, l'histoire, ni les personnages. Donc c'était plutôt mettre en lumière certains points qu'on imaginait évident pour les joueurs. Et puis on a ajouté aussi un lexique pour préciser justement certains de ces points, mais développer certaines scènes. Et puis une dernière chose, c'est que j'avais créé à l'époque une autre aventure avec le même personnage qui n'avait pas pu être publiée à l'époque. Donc elle sortira au premier trimestre 2014. Voilà. D'accord. C'est pas à Paris, en Bretagne cette fois, d'autres créatures, mais toujours ces vampires.
D'accord, tant mieux, ça se poursuit. Alors, Jean Marigny, vous êtes le grand spécialiste de l'histoire du mythe du vampire, disons-le, on le dit, voilà. Vous avez fait notamment une thèse de doctorat sur le vampire dans la littérature anglo-saxonne. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, et je vous conseille vraiment le Découverte 100%, Découverte Gallimard, qui est extrêmement bien fait et très très concis. Alors, avant donc de passer à Morgane Cossario, qui est vraiment la partie moderne, on va dire vraiment du mythe, est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à faire le lien entre l'origine littéraire du mythe, donc Byron, Fanus, Stoker au XIXe siècle, et donc notre dernier auteur qui parle vraiment du mythe de façon très très moderne?
Alors, il faut dire que, excusez-moi, le vampire est un produit du romantisme. Le tout premier auteur qui a eu l'idée d'écrire un roman sur le thème du vampire, c'était Lord Byron en personne. Il n'a jamais réussi d'ailleurs, il en a laissé 3 pages, et c'est un certain Polidori, qui était à la fois son secrétaire et son médecin, qui a repris l'idée et qui a publié en 1819 le premier récit en prose intitulé Le Vampire, qui a eu un succès absolument énorme dans toute l'Europe. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu il y a eu même un opéra qui ont été tirés du vampire, et donc le vampire était à la mode. Et en France, ça marchait très bien. Et puis, il y a eu un certain nombre, pendant tout le 19e siècle, il y a eu un certain nombre d'ouvrages où le vampire était avant tout un séducteur. Hein, parce que Lord Raven, le personnage de Polidori, séduit les femmes. Hein. D'ailleurs, ça, c'est une espèce de convention littéraire que le vampire s'attaque toujours aux personnes du sexe opposé. Alors qu'en fait, dans la légende, il lui s'attaque à n'importe qui. Hein. Il n'y a pas de détails. Toutes les victimes peuvent être des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards.
Excuse-moi.
Des animaux, bien sûr, dans les cas les plus bénins. Hein. Et Dracula, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on lit le roman de Stoker, n'est pas tellement un séducteur. Hein. On nous dit qu'il a la laine fétide. C'est pas tellement... pour faire du French kiss, c'est pas merveilleux. Hein. On nous dit qu'il a la peau très glacée. Puis il est plutôt rébarbatif. Et en fait, si Dracula est devenu peu à peu, pour nous, dans notre imaginaire, un personnage de séducteur, c'est surtout le cinéma qui a fait ça. C'est-à-dire que, bon, déjà Bela Lugosi, avec sa grande cape, avec sa tenue de soirée, était un personnage qui était quand même inquiétant, avait un regard inquiétant, mais qui pouvait séduire, hein, tout dépend des goûts. Et c'est surtout avec Christopher Lee, évidemment, que là, on commence à voir un vampire très amen, très, très beau, qui, devant lequel toutes les femmes tombent en pamoison. Et puis peu à peu, c'est au cinéma en particulier, on voit le vampire se rajeunir. C'est-à-dire que plus on va, plus on voit des vampires qui sont des jeunes hommes séduisants. Mais le vampire reste quand même, dans les années 70, reste quand même un personnage indésirable. C'est quand même, il représente le mal malgré tout. Et il faudra une romancière que vous connaissez tous, Anne Rice, pour changer complètement la donne. En 1976, elle publie Entretien avec un vampire, où là, elle présente des vampires qui sont obligés de tuer, hein, pour survivre, ce qui n'est pas bien, mais qui, en même temps, ont un caractère humain de plus en plus visible. Et son personnage de Lestat est un personnage démoniaque, dans le premier roman, alors que lui, c'est un être humain qui est devenu vampire malgré lui, et qui est déchiré entre sa nature de prédateur et sa nature humaine. Et finalement, à partir de là, on a rendu le vampire de plus en plus humain, de plus en plus gentil, et on arrive à la catastrophe finale, qui est Twilight. Alors là, on a un vampire, on ne sait même plus si on peut utiliser le terme de vampire. Il peut se promener de jour comme de nuit sans être inquiété par les rayons du soleil. Il ne boit plus de sang, hein, parce que il se contente de sang animal, de chasser, etc. Et puis il attend peut-être qu'on lui fasse un sang synthétique qui lui permettra de... Donc on a une évolution du vampire qui consiste un petit peu à nier sa véritable substance. Et justement, j'en arrive à Morgane, qui a écrit un roman qui s'inscrit totalement contre cet abattardissement du mythe, en quelque sorte, et qui nous ressuscite le vampire tel qu'il est. En fait, il y a deux romans, je pense, qui sont sortis ces dernières années, qui reprennent vraiment cette idée du vampire cruel et prédateur. C'est Laisse-moi entrer. Alors là, c'est un roman que je vous conseille parce que c'est un roman que j'adore personnellement. J'ai adoré les deux films qui ont été tirés. Hein, c'est d'un auteur suédois, John Ashby de Lindqvist. Et ce vampire est très particulier parce que c'est une petite fille de 12 ans. On n'a pas l'habitude de voir des enfants se comporter comme ça. En fait, elle a 200 ans, mais elle a l'aspect d'une fille de 12 ans. Et ce qui est très curieux dans le roman, c'est qu'à la fois, elle a la naïveté de l'enfance, elle a le côté touchant de l'enfance, et en même temps, c'est un prédateur absolument horrible, hein, qui commet des crimes absolument barbares. Et à la fin, elle n'est pas punie, hein, c'est elle qui triomphe. Hein, et donc, la morale traditionnelle est complètement bafouée. Hein. Donc ça, c'est le retour du vampire traditionnel, si j'ose dire. Et puis, Morgane Cossario va tout à fait dans le même sens, avec elle aussi un personnage de vampire enfant. Hein. Alors comme moi, à l'heure actuelle, je suis en train d'abandonner la recherche sur les vampires pour me consacrer à l'enfance. Je suis en train de faire un livre là-dessus, sur l'enfance dans la littérature d'horreur. Je suis gâté, c'est le roman. Et je vais laisser la parole à Morgane, qui en parlera mieux que moi.
Celui-là marche, oui, il marche, mais celui-là marche mieux.
Donc oui, moi j'ai voulu vraiment m'opposer à cette mouvance Twilight qui m'a horripilée. Et j'ai voulu revenir aux vampires des années 80 et à Anne Rice, parce que j'ai lu Anne Rice à 8 ans, c'est quelque chose vraiment qui a énormément marqué mon imaginaire d'enfance et d'adolescence. Et adolescente aussi, j'ai été très très marquée par tous ces films des années 80, donc Les Prédateurs, Aux frontières de l'aube ou Génération perdue, donc ils mettaient en scène des vampires qui récupéraient les codes de la culture punk ou post-punk. Et c'est ces vampires-là qui me parlaient parce que c'était vraiment des vampires qui parlaient à l'adolescente parce que c'était des vampires qui en fait refusaient de devenir adultes, qui refusaient de travailler, de payer des impôts, et qui passaient en fait leur vie à s'amuser, à faire la fête, à tuer, à faire des orgies interminables. Et vraiment, ça m'a plu. Et c'est vraiment ce vampire-là, ce vampire cruel, ce vampire qui n'a pas de pitié mais qui s'amuse à faire le mal, que j'aime bien venir et vraiment m'échapper de ce vampire aseptisé qui n'a même plus de canine. Et en fait, au final, c'est juste une métaphore de la religion mormone. Parce que bon, Edward Cullen, c'est quand même l'ange mormonien réincarné. Hein. Bon, c'est quand même un petit peu dur, je trouve, pour un vampire. Donc voilà, j'ai bien revenir à ça.
Alors justement, sur votre site, vous dites que vous aimez la littérature splatterpunk. Donc je ne sais pas trop si les gens connaissent ce terme. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est et nous parler justement de l'influence du coup, que cette littérature a pu avoir sur votre texte dans les veines?
Ouais, la littérature splatterpunk, c'est juste la littérature la plus horrible que vous pouvez lire. Donc ça mélange culture punk, mais même pas forcément, enfin, c'est vraiment, ça part de la marge et c'est toujours énormément de gore, énormément d'ultra-violence. Et alors les auteurs phares, ce serait Poppy Zebright, Pierre Ketchum. En France, je mets Virginie Despentes dedans pour le livre Baise-moi, qui est pour moi vraiment très splatterpunk. En fait, c'est vraiment la littérature sensation forte. Enfin, c'est vraiment aller au bout de la sensation, au bout de l'extrême. Enfin, c'est comme être sur une grande huile, c'est vraiment aller au bout. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et pour moi, enfin, le vampire, c'est vraiment une créature horrible, malsaine. Et je trouvais que vraiment, c'est hyper lié à la littérature splatterpunk et ce que j'ai voulu exprimer.
Et quelles sont les caractéristiques alors des vampires que vous reprenez dans votre texte, justement ? Traditionnel, je veux dire.
Enfin, ou pas traditionnel.
Alors, je voulais garder vraiment l'aspect la dualité du vampire. J'ai voulu garder le côté séduisant parce que ça m'intéresse pas qu'une créature qui est juste un monstre qu'il faut éliminer, qui n'a pas d'aspect séduisant. J'ai voulu montrer une créature au premier abord très séduisante, très intéressante, très profonde, mais qui au final est pourrie de l'intérieur. J'ai gardé le côté à l'infectitude, le côté. Il est beau, mais il est glacé, il est mort, il pue, il n'apporte que le mal. Il n'est pas bon, il est néfaste, il est extrêmement néfaste, rien que sa présence vous tue. Et être fasciné par lui, être amoureux de lui, enfin, c'est du suicide, quoi. C'est vraiment ça que je voulais montrer. C'est morbide, c'est une créature morbide, il ne faut pas oublier. C'est pas une créature qui va à l'école, qui suit les cours d'histoire et qui lève la main. Ah non monsieur, moi j'étais là, on essaie de porter un contrat, mais je ne vais pas chaud comme ça. Pas comme c'est vampire, de toute façon, c'est des vies connaissants de vampire qui vont lycée. C'est pas possible, enfin, le mec il a 100 ans, il va pas aller faire toutes les années le même cours. Voilà, c'est pas possible.
Et alors pour vous, donc le vrai vampire, ce serait la trilogie Dracula, Lestat d'entretien avec un vampire et Spike de la série Buffy contre les vampires ?
Bah oui, c'est des figures toutes très différentes. Je pense pas qu'il y ait de vrais vampires, enfin, c'est plus une accroche. Mais le faux vampire, c'est Edward Cullen. Après, le vampire est une figure vraiment multiple qui s'est adaptée à toutes les époques, qui a. Qui pas forcément suit la mode, mais qui parfois l'a créée, je pense.
Alors, Éric Bizet, j'ai lu, moi, au contraire, dans une interview, qu'un ami à vous trouvait qu'Anne Rice avait limé les crocs du vampire dans Entretien avec un vampire en 76.
Où je donne son nom, il n'est pas là. Oui, non, c'est un libraire, en fait, qui est éditeur maintenant des éditions critiques, qui s'appelle Simon Pinel. Donc, Oui, alors c'est un très grand, très gros lecteur, il lit énormément, puis maintenant il se tend plus vers l'édition. Et j'avais entendu dire ça en fait, en présentant des bouquins dans ses librairies, et j'ai trouvé la formule chouette, quoi. C'est Anne Rice, la première à avoir limé l'écho du vampire. Bon, je sais pas, effectivement, interview avec un vampire, c'est pas toujours très, très soft, mais disons qu'il... Elle remettait sans doute au bout du jour une forme de romantisme, en tout cas, qui n'était peut-être pas... Parce qu'en fait, à la même en 76, donc Salem de Stephen King, c'est quelle année? C'est à peu près c'est par là.
Un an avant,
voilà.
Un an avant.
Donc là, c'est vraiment...
C'est encore le vampire méchant.
Voilà, c'est encore... du coup, Anne Rice, donc Salem, que j'avais lu avant Anne Rice... Donc là, c'est un vampire aussi qui est vraiment, vraiment terrifiant, hein, qui dévaste une petite ville. Et Anne Rice arrive, et donc on n'est jamais aussi dans la... Enfin, dans mon souvenir, en tout cas, je ne crois pas, on n'est jamais vraiment dans la tête des vampires. On suit vraiment le parcours des villageois, des victimes et des survivants. Alors qu'avec Anne Rice, on se retrouvait d'un seul coup dans la peau des vampires, à essayer de comprendre leur vie, leurs émotions, leurs ambiguïtés. Donc je pense que c'est ce qu'il avait voulu dire, en fait. Hein, c'est... D'une certaine manière, on était, le lecteur était impliqué et amené à s'attacher à ces personnages-là et pas voir en eux simplement des prédateurs qu'il faut éliminer dès que possible. Donc, je pense que c'est un petit peu cette idée qu'il y avait.
D'accord. Alors, Monsieur Arigny, vous avez co-dirigé en 2010 avec Jacques Finet une anthologie appelée « Les femmes vampires ». Oui. Ce sont des nouvelles du 19e et 20e siècle. C'est vrai que quand on parle de vampire, c'est plutôt un personnage masculin qui vient immédiatement à l'esprit. Vous vouliez un petit peu rétablir la balance avec cette anthologie?
Oui, alors en fait, ce que Jacques et moi nous voulions faire, c'est choisir des textes peu connus et, si possible, inédits en France. Donc c'était un peu un tour de force. Et pour des raisons de copyright, notre éditeur nous demandait de traduire des nouvelles qui étaient libres de tout droit, hein, donc ça restreignait évidemment le champ. Et puis on pensait aussi que les femmes vampires, c'était intéressant, c'était une façon intéressante et originale de revoir le mythe. Et en fait, la femme joue un rôle très très prépondérant dans le mythe vampirique, parce que à l'époque du romantisme, la femme, c'est la femme fatale, la vampire femelle, c'est la femme fatale. Hein. C'est-à-dire que, alors que le vampire masculin agit par la force physique, elle agit par la séduction. Hein. Donc, il y a eu avant la publication du Vampire de Polidori, il y a eu énormément de poèmes en Angleterre. Des romantiques anglais, Byron, Southey et bien d'autres, sur le thème de la femme vampire, la femme qui, dans le baiser, apporte la mort. Hein, donc c'est un thème. Et puis ensuite, il y a un personnage que personnellement je trouve. Il y a deux personnages du 19e siècle que je trouve extrêmement attachants. Et si vous n'avez pas lu les deux nouvelles, je vous les conseille très très fortement. C'est la mort amoureuse de Théophile Gautier, qui est à mon avis le chef-d'œuvre dans ce domaine, et puis le Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui est vraiment quelque chose, pardon, qui est vraiment, oui, il faut toucher le micro, hein, pour que ça marche. Mais j'ai pas l'habitude, moi je suis pas comme les stats, hein, je suis pas un chanteur de rock. Voilà. Donc je pense que le thème de la femme vampire est un thème très ancien, puisque ça, dès le 19e siècle, ça marche. Et puis à l'heure actuelle, ça a repris un regain avec ce qu'on appelle la bitlite. Hein. Vous savez que la bitlite, le mot vient de bite, qui veut dire mordre, et puis de lit pour littérature. C'est un terme qui a été forgé en France, d'ailleurs, par les éditions Bragelonne. Et la bitlite, c'est un ensemble de romans écrits en majorité par des femmes, dont les personnages principaux sont des femmes. Et donc des héroïnes. Alors, il y a parfois... Ces femmes sont parfois des vampiresses, si je peux utiliser ce terme, et des chasseuses de vampires. Hein. Donc il y a Buffy, par exemple, parmi les chasseuses de vampires. Il y a le personnage de Laura Kay Hamilton,
Anita Blake.
Et puis il y a énormément aussi de femmes vampires qui sont très séductrices et qui sont redoutables, mais qui en même temps sont très modernes et affirment leur... en fait, c'est une espèce de retour d'un féminisme affirmé. Hein, il s'agit, ce sont des femmes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Hein.
On va revenir à Nina Blason pour la femme du vampire. Parlez-nous un peu de cette femme, de ce personnage qui va découvrir une famille qu'elle ne connaît pas du tout. Et à quel type de vampire est-ce qu'elle va être confrontée, en fait, sans nous en dire trop, bien sûr. Hein.
In dem Roman geht es ja um, im Grunde genommen, der Vampir ist das Thema, aber es geht hier um diesen Urfang, wo es um den Außenseiter geht, also im Vampir, im serbischen Urmythos, wurde ein bisschen so gehandhabt, wie er hatte ähnliche Eigenschaften wie, man könnte sagen, im katholischen Raum eine Hexe. Er war auch nicht verführerisch, er war nicht schön, er war eher wie ein Zombie fast. Also er kam aus dem Grab, war hässlich, hatte keine langen Zähne, zumindest in diesem Gebiet nicht, in Serbien. Und es geht um das Thema dieser Familie des Außenseiters. Die junge Frau, die Hauptfigur des Romans, ist eine Außenseiterin, weil sie von außen kommt. Aber der Vampir, um den es geht, das ist dieser Mythos des Anderen. Es gab damals auch sogar in dieser Region lebende Vampire. Und das waren Menschen, die von Geburt an dazu bestimmt waren, Vampire zu sein, denen misstraut wurde. Wir könnten hier einen Test machen, wer ein Vampir ist, der blaue Augen hat. Also jeder, der anders war als das, was man dort kannte, zum Beispiel blaue Augen, rote Haare, war in Verdacht, er könnte ein Vampir sein und Böses über ein Dorf bringen.
Oui, en fait, pour moi, le vampire, je suis revenu au mythe primitif du vampire. En fait, le vampire, au départ, avait les mêmes caractères, les mêmes qualités que, on pourrait dire, sur le plan catholique, une sorcière. Il n'était pas du tout beau, il était même affreux, il ressemblait à un zombie, il n'avait pas de longue canine, en tout cas pas dans cette région. Il sortait de la tombe. En fait, ce qui m'intéressait dans ce roman, c'était plutôt le personnage, le marginal, celui qui ne ressemble pas aux autres, celui qui vient d'ailleurs. Et la protagoniste principale, Yasna, en fait partie. Elle arrive dans un village dont elle ne fait pas partie, personne ne la connaît, et donc on la rejette plutôt plus que moins. Dans cette région, d'ailleurs, il y avait des vampires vivants. On pourrait faire le test parmi vous, par exemple, ceux qui n'ont pas les yeux bleus et qui n'ont pas les cheveux rouges, ceux qui ont les yeux bleus, pardon, et qui ont les cheveux rouges, pourraient être suspectés d'être des vampires. C'était surtout ce thème-là qui m'intéressait.
Alors, je vous remercie parce que, aux deux tiers du texte, en fait, vous nous faites une très belle surprise. Et voilà, je ne veux pas en parler trop parce que faut vraiment que les lecteurs le lisent. Mais vous renversez vraiment la thématique du vampire, je trouve. J'ai trouvé ça très beau, en fait.
Merci beaucoup.
Jean-Marie, vous dites dans vos études sur le vampire que le mythe est cyclique et que l'affaiblissement maximal est atteint quand on arrive dans la parodie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, alors moi, ce que j'ai cru constater, c'est une théorie, hein, je ne sais pas si elle est vraiment valable, mais j'ai constaté que l'intérêt porté au vampire depuis la création en 1819 correspond avec les moments de crise économique et de crise politique. En particulier, le vampire a eu un énorme succès pendant la période d'entre-deux-guerres,
parce que après la chute de Wall Street en 1929, il y avait un chômage endémique aux États-Unis, et automatiquement, quand il y a, on connaît ça maintenant, hein, on est en pleine crise, hein, lorsqu'il y a une crise économique, eh bien, il y a du chômage. Et évidemment, qui est-ce que est le bouc émissaire dans ce cas-là? C'est l'étranger. Or, Bela Lugosi, avec son accent hongrois, avait tout pour plaire, ou pour déplaire, plus exactement, il cristallisait toutes les haines du public américain. Donc, c'est un peu une espèce de rejet et d'attraction en même temps qui fait que le vampire a eu un succès énorme. Et puis ensuite, la deuxième grande période où le vampire a eu un énorme succès aussi, c'est les années 70. Là, j'ai peut-être pas besoin de vous faire un dessin, hein, mai 68. Évidemment, pour vous, ce ne sont sans doute pas des souvenirs, mais moi, je l'ai vécu. Hein. Et donc, dans les années 68, c'est une négation complète de tous les principes connus de la société. Hein. On veut bâtir du nouveau, on veut tout changer. Et puis maintenant, de nouveau, on ne parle plus que de vampires. Et là non plus, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je pense qu'on est arrivé à un point où le monde s'interroge, où les vérités politiques d'hier n'ont plus cours, où l'économie est en train de dégringoler à la vitesse grand V. C'est même un peu véritablement effrayant. Et là, le vampire se taille de nouveau la part du lion. Alors, en ce qui concerne maintenant la parodie, à ces périodes très fortes correspondent des périodes de moindre intérêt. Et à ce moment-là, c'est là que les humoristes s'emparent du thème. Donc je pense que lorsque Twilight aura fini de faire des ravages, eh bien on aura des humoristes qui reprendront. D'ailleurs, ça existe déjà. Hein, je me souviens avoir vu un film qui était véritablement une parodie du premier Twilight, du premier film, où c'était absolument désopilant. Quoi, hein. Donc je pense qu'il faut s'attendre dans quelques années à un retour du comique, hein, un retour de la gaudriole, et peut-être dans quelques années, de nouveau, il y aura donc une espèce de rythme cyclique.
On n'est pas passé déjà au mythe du zombie. Est-ce que le zombie n'a pas déjà un peu remplacé le vampire?
Alors, évidemment, moi je ne suis pas Madame Soleil, hein, et on me pose souvent la question, est-ce que le vampire va durer? Ah, je suis incapable de répondre à cette question. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est arrivé à une période de saturation. Même moi qui adore les vampires, je commence à trouver que ça devient un peu indigeste. Et je constate qu'au cinéma, par exemple, le zombie est en train pour utiliser un terme économique, est en train de prendre des parts de marché. Et je pense que, donc, si le cinéma se lance à fond sur ce thème, la littérature va suivre automatiquement, et il est possible que le zombie détrône le vampire à long terme. Il est possible. Hein.
C'est dommage.
Il y a des théories là-dessus. Enfin, effectivement, il y a des gens qui se posent la question. Parce qu'effectivement, on voit des zombies partout en ce moment. Hein. Même ça commence déjà même à saturer, parce qu'on en voit beaucoup dans les jeux de société. Bon, après, il y a Walking Dead qui a un peu donné le là pour ce qui est de la bande dessinée. Alors, donc, certains disent, moi, je n'ai pas trop d'idées là-dessus, je trouve ça intéressant, effectivement, d'y réfléchir, c'est que les zombies ne pourront jamais atteindre le niveau popularité du vampire, parce que ça n'est jamais. D'abord, c'est rarement un personnage seul, c'est plutôt la masse qui effraie. Donc, c'est un mouvement effrayant et. J'allais dire désincarné, mais en tout cas sans âme, ce que n'est jamais le vampire, en tout cas dans ses versions les plus passionnantes. Et, par contre, c'est vrai que le zombie fait aussi sa place, parce que, comme vous le disiez, on est dans une période de crise, et qu'il faut trouver un bouc émissaire, et aussi une représentation de l'angoisse qui est celle de tous actuellement. Donc il y a cette menace qui est de disparition d'un système tel qu'on l'a connu. Et les zombies la représentent par leur côté anonyme, par le nombre, et éventuellement la maladie aussi.
Si je peux ajouter quelque chose, je dirais que le vampire, par rapport aux autres personnages de littérature classique, est beaucoup plus riche. Le loup-garou, bon, bah, si on dit que le loup-garou, c'est une illustration de la bestialité, on a tout dit sur le loup-garou. Hein. Si on dit du zombie, c'est l'horreur de la mort physique, hein, de la déchéance, on a à peu près tout dit sur le zombie. Alors que pour le vampire, c'est beaucoup plus complexe, hein, parce que chez le vampire, il y a ce phénomène de séduction, il y a ce phénomène de prédation, il y a la mort, bien sûr, la peur de la mort, mais il y a aussi le rêve de l'éternité, hein, puisque bon, le vampire, par définition, est éternel. Hein. Et je crois que si à l'heure actuelle, beaucoup d'adolescents adorent les personnages comme Edward Cullen, c'est parce qu'il représente véritablement le surhomme, le meilleur exemple du surhomme qu'on puisse imaginer. C'est quelqu'un qui ne meurt pas, c'est quelqu'un qui ne vieillit pas, c'est quelqu'un que la maladie ne peut pas atteindre. Quoi de mieux, hein, tout le monde rêverait à cette enseigne d'être vampire. Hein, alors que personne n'a envie de devenir un zombie ou un loup-garou. Hein.
J'avais une question justement pour Morgane Cossario. Vous qui aimez bien les choses un peu extrêmes quand même, on peut dire. Justement, est-ce que le personnage du zombie, ça vous intéresserait dans un texte futur ou pas?
Alors j'aime beaucoup le zombie au cinéma, mais j'aime beaucoup moins le zombie en littérature. Et je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fusion du zombie et du vampire. Par exemple avec un film comme Noir Bodies, où je trouvais que le maquillage de l'acteur faisait beaucoup plus vampire que zombie. On a quand même un zombie qui a des émotions, qui tombe amoureux. Alors au début c'est plutôt l'apanage du vampire ça. Et on a par exemple un film comme 30 jours de nuit, où le vampire a quand même un filtre très zombiesque. Donc je pense que pas forcément le zombie prend de l'importance par rapport au vampire, c'est juste que comme dans beaucoup de choses, la fusion des genres, comme dans la suite, voilà, on a beaucoup de vampires qui se mélangent au loup-garou, là on a un zombie qui devient vampire et un vampire qui devient zombie, et puis c'est bien, comme ça change un petit peu et ça se marque. Voilà.
Et alors justement, vous pouvez nous dire un petit mot sur des projets futurs d'écriture, si vous avez des choses en cours ou...
Alors là, tout récemment, j'ai sorti un essai, Vampire et Bayou. Et justement, je voulais saluer Mina Blason parce qu'elle a écrit un livre qui resitue le vampire en Europe de l'Est. Et moi, ce que j'ai remarqué, et j'explique dans cet essai justement, c'est que depuis les 30 dernières années, depuis Anne Rice, le vampire en fait a complètement migré en Amérique, et plus particulièrement dans le Vieux Sud, en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans, parce que mine de rien, cette ville très décadente, très marquée par la prostitution, par la ferveur religieuse, par le vaudou, semble vraiment la terre d'accueil idéale et a complètement remplacé les superstitions d'être un peu dépassées maintenant de la Transylvanie. Et voilà, moi, je sais bien qu'il y ait de nouveau un livre qui resitue un petit peu le vampire dans ses vagues. Mais si vous voulez en savoir plus sur le vampire de la Nouvelle-Orléans, dans ses vampires et la Lune, donc Jeannès, Trigone, Entretien avec un vampire, Âme perdue d'Anne Rice et beaucoup d'autres œuvres. Voilà. Et sinon, moi, j'ai un deuxième roman qui est fini et qui a été accepté chez Nemos et qui sortira début 2014. Mon premier roman dans les veines, c'est un one-shot, mais le deuxième roman, qui peut se faire tout à fait indépendamment, reprend un personnage, notamment donc, cet enfant vampire dont parlait Jean-Marie Mou. On connaîtra son histoire. Hein.
Merci. Est-ce que vous pouvez passer Nina Blason, alors, vous pouvez nous parler d'un futur projet,
vampire ou pas vampire, hein, d'ailleurs.
Ja, allerdings geht es mehr wieder in die Fantasy und nicht mehr in Richtung Vampirismus. Das war ein Roman und das bleibt einer.
Oui, donc le prochain projet sera plus dans la direction, plutôt dans la direction de la fantasy. Le vampire était un one shot.
Tout à fait. Éric Bézel, maintenant vous avez revu votre livre, c'est vraiment fini les vampires?
Non, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est certain comme sortie, donc ce sera début 2014 chez le même éditeur que Morgane, c'est la suite de La Porte des Larmes, c'est une aventure indépendante, et là ce sera une seconde aventure avec les mêmes personnages. Sinon il y a d'autres choses en cours, mais je ne peux pas annoncer encore de publication.
Et donc Jean-Marie Nive, bientôt une étude sur les enfants dans la littérature.
Voilà, ça c'est. Comme je le disais, je suis un petit peu. Je suis un peu saturé par les vampires, parce que ça fait 40 ans que j'écris sur les vampires. Et pour les médias, je suis un peu assimilé au thème. Hein. Donc, à quel point que je suis devenu le monsieur vampire, et ça devient un petit peu lourd à porter. Alors que le thème de l'enfance maléfique ou le thème de l'enfance dans la littérature d'horreur, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé parce que c'est quelque chose pour laquelle je ne suis pas encore blasé. Hein, donc, et je me souviens la première fois que j'ai vu L'Exorciste et que j'ai vu cette petite fille de 12 ans prendre brusquement un regard satanique qui poussait des feulements de lion. Ça m'avait remué, hein. Ça me remue toujours ce genre de choses. Hein. Parce que je m'interroge justement sur le mythe de l'innocence enfantine et de ce qu'il y a peut-être derrière.
Merci beaucoup. Donc je vous rappelle que tous nos auteurs sont en dédicace à la vue du livre. Merci à tous. Bonne journée.
Juste revenir, c'est celui-là, oui. Qui a porté l'un.